buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous et à toutes, nous vous proposons aujourd'hui le troisième volet de notre série sur les clichés eurosceptiques avec cette question, l'Europe favorise-t-elle le dumping social ? La semaine dernière, le Parlement européen a validé, à une très large majorité, la révision de la directive sur les travailleurs détachés, une nouvelle mouture censée mieux lutter justement contre ce dumping social. Du monde politique aux syndicats, en passant par les inspecteurs du travail, tous le reconnaissent, le bas coût des travailleurs détachés est rendu possible en partie grâce à la fraude. Emma Roulin a rencontré chez lui Christian Badjou, travailleur détaché roumain, qui a accepté de témoigner sur cette dérive du système.
Avec l'argent gagné à l'étranger, la plupart des Roumains investissent dans la pierre et dans l'éducation de leurs enfants. Christian, travailleur détaché depuis 6 ans, ne déroge pas à la règle. À Alounis, sa future maison, encore en construction, s'élève près de la longère où il cohabite avec sa mère et sa fille de 7 ans. Laurentiu, son fils aîné, vit en pension et brille par ses très bonnes notes à l'école. Et pour cause, son père, présent par intermittence, investit une bonne partie de l'argent gagné à l'étranger dans sa réussite scolaire. Il y a 20 ans, pourtant, Christian n'aurait jamais imaginé quitter la région de Varbilao, où il est né et où il a grandi.
À la fin de mon école professionnelle de mécanique, mon père m'a trouvé une place à la mine de sel de Slanik, tout près d'ici. J'étais alors persuadé que j'allais travailler là-bas toute ma vie. Mais 15 ans plus tard, l'entreprise a connu de sérieuses difficultés. Il y a eu des plans sociaux et je suis parti travailler en Espagne. Aujourd'hui, en Roumanie, je n'arrive pas à trouver un contrat de travail stable, avec un bon boulot et un bon salaire. Je préfère donc trouver quelque chose loin de ma famille, travailler 3 ou 4 mois et rentrer, plutôt que de rester en Roumanie et de gagner le revenu minimum. Ça reviendrait juste à couvrir mes dépenses en électricité, en eau et en produits de première nécessité pour mes enfants. Ici, tu ne fais rien de plus avec le salaire minimum.
Après l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007, les entreprises roumaines ont pu profiter de la directive sur les travailleurs détachés. Elle permet aux entreprises européennes d'envoyer temporairement leurs salariés en mission dans d'autres pays de l'Union. L'entreprise doit alors appliquer le noyau dur de la réglementation du pays d'accueil, salaire minimum, les conditions de travail, mais elle continue de payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. Peu à peu, des sociétés d'intérim internationales basées en Roumanie ont saisi l'opportunité. À partir de 2012, Christian a trouvé du travail grâce à plusieurs d'entre elles, mais il a peu à peu découvert les dérives de ce système.
En 2013, j'ai été recruté par une société roumaine pour travailler sur un chantier à Dunkerque, dans le nord de la France. Quand je suis allé signer mon contrat, on m'a dit que l'on ne pouvait pas me payer plus de 5 euros de l'heure et que j'allais travailler 10 heures par jour.
En arrivant sur place, Christian signe finalement un contrat avec une entreprise italienne nommée Sitches. Pendant près de 2 ans, il enchaîne les heures de travail le soir et les week-ends. Il loge dans un camping à Calais, à 50 km de son lieu de travail et n'a pas de congé payé.
Pour moi, tout s'est bien passé jusqu'au 8 juin 2015. Vers 16h, je suis arrivé sur le chantier pour aller charger une plateforme, mais quand je suis descendu du camion, j'ai marché sur une pierre et je me suis luxé la cheville. On ne m'a emmené à l'hôpital que 3 jours après l'accident. À ce moment-là, j'ai un peu mieux observé mes fiches de paie. J'ai notamment vu qu'il y avait une page sur laquelle était écrit « Recupero costi vari », ce qui veut dire en italien « récupération diverse ». Tous les mois, Sitches, le sous-traitant italien qui nous employait, prélevait de l'argent sur les salaires des Roumains. J'ai demandé à un Italien s'il avait la même chose sur ses fiches de paie. Il m'a répondu non.
Soutenu par la CGT et l'inspection du travail, Christian et 13 travailleurs détachés roumains ont porté plainte et récupéré les sommes impayées, environ 400 000 euros. Tous ceux qui ont accepté de parler étaient en fin de contrat. Christian a rapidement vu les répercussions de son acte.
Les Roumains ont commencé à me regarder avec de la haine. Eux, ils étaient payés à l'heure, ils voulaient juste faire des heures. Ils ont commencé à se dresser contre moi. Puis, après mon accident, j'ai essayé de recontacter les sociétés de recrutement roumaines qui m'employaient avant pour le détachement et le travail à l'étranger. La majorité a refusé de me donner du travail, sachant ce qu'il s'était passé.
Depuis sa mésaventure, Christiane a tout de même trouvé un peu de travail en Espagne, en Allemagne et en Italie. Lors de ses missions, la directive de 1996 était rarement respectée. Il lui arrivait de ne pas signer de contrat ou de faire des heures supplémentaires sans être payé correctement. Aujourd'hui, le travailleur détaché alerte.
J'aimerais vraiment tirer la sonnette d'alarme pour tous les Roumains qui partent travailler à l'étranger. Le problème, ce sont ces sociétés de recrutement qui prennent des travailleurs et dont j'ai moi aussi été la victime. La plupart du temps, les gens ont peur de dire ça. Moi, j'aimerais simplement travailler comme un citoyen normal, avoir un contrat de travail et gagner de l'argent honnêtement.
Grâce à la révision de la directive sur le travail détaché, Christiane verra peut-être son rêve se réaliser. Le nouveau texte tend à mieux protéger les travailleurs contre la fraude et l'exploitation. Il stipule que les frais de transport, hébergement et restauration des travailleurs devront être payés en plus du salaire et que les normes en matière de logement devront être appliquées aux travailleurs détachés. Tout dépendra ensuite de l'ampleur des contrôles de l'inspection du travail. La nouvelle directive doit recevoir l'ultime validation du Conseil fin juin. Un feu vert strictement formel. Les pays auront ensuite 2 ans pour transposer le texte dans leur législation. Il devrait entrer en application en juin 2020.
Un reportage d'Emma Roulin. Les clichés eurosceptiques, c'est aussi un web documentaire à retrouver sur le site l'europe-et-moi-2.rfi.fr. Quatre mois après, la Slovaquie a bien du mal à se remettre du choc provoqué par l'assassinat de Jan Kuciak. Ce journaliste enquêtait sur les pratiques mafieuses et les affaires de corruption au sommet de l'État. L'enquête pour l'instant n'a rien donné et les journalistes slovaques s'inquiètent de la direction que le pays est en train de prendre. Une douzaine d'entre eux a récemment démissionné de l'audiovisuel public en signe de protestation. Alexis Rosenzweig.
En avril dernier, le départ forcé de 4 journalistes de la télévision publique avait déjà provoqué des remous et les conflits avec la direction ont pris de telles proportions que la douzaine de démissionnaires explique ne pas avoir eu d'autre choix. « Nous pensons que la Slovaquie mérite mieux », estime-t-il dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, et certains d'entre eux expliquent que l'actuelle direction fait subir des pressions et a mis en place une forme de censure devenue ingérable. Cette direction de l'audiovisuel public a réagi de façon laconique. Le chef de la RTVS rejette les accusations de soumission à l'actuel gouvernement, mais ses pratiques sont fortement contestées. Précédemment à la tête de l'agence de presse slovaque, c'est déjà lui qui avait conclu un accord de partenariat avec Sputnik, l'outil de propagande russe, avant de se rétracter sous la pression. Aujourd'hui, le contexte est bien différent, dans une Slovaquie qui a du mal à se remettre du traumatisme provoqué par le meurtre du jeune journaliste d'investigation et de sa compagne. La nouvelle ministre de la Culture affirme qu'il est inacceptable que des politiciens puissent influer sur le travail des médias publics, mais cela ne rassure guère une partie de la population, déjà peu convaincue par les changements de façade intervenus dans le gouvernement et la police ces dernières semaines. Au classement mondial de la liberté de la presse, la Slovaquie vient de perdre 10 places en un an, désormais en 27e position, et bon nombre de journalistes locaux craignent que la situation se détériore encore davantage.
Ne plus interner les malades mentaux, mais les soigner dans des petites structures à taille humaine, c'est l'ambition de l'Union européenne qui verse des fonds au gouvernement désireux de réformer leurs soins psychiatriques. En Hongrie, une petite association n'a pas attendu pour pratiquer la psychiatrie communautaire. À Budapest, la fondation L'Éveil existe depuis 27 ans. Son équipe multidisciplinaire accueille les malades et leurs familles. Elle utilise une nouvelle méthode pour soigner les schizophrènes, les entendeurs de voix. Florence Labruyère.
Dans cette vieille maison du 8e arrondissement, un quartier populaire de Budapest, la cour intérieure est plantée de grands arbres et décorée de tableaux peints par les patients. Nous sommes à l'association L'Éveil, qui accueille les personnes souffrant de troubles mentaux. Elles ne sont pas hospitalisées, mais viennent ici pendant la journée. Robert Christophe, directeur de l'institution.
Je dirais que c'est un centre unique à Budapest parce que nous, on fait ici la psychiatrie communautaire intégrée. C'est-à-dire qu'ici, non seulement des assistants sociaux qui travaillent avec les patients, mais aussi des psychologues et des psychiatres. Alors, il ne faut pas attendre des semaines ou bien des mois pour un rendez-vous avec un psychiatre ou un psychologue. Ils peuvent voir un psychologue ou un psychiatre dans, 3 heures, 4 heures.
Ici, on soigne les personnes bipolaires ou schizophrènes à l'aide d'une méthode découverte par des médecins néerlandais. Les patients ne sont pas considérés comme des schizophrènes, mais comme des entendeurs de voix.
Parce que le mot schizophrène, c'est stigmatisant. J'entends des voix, c'est normal. Je dirais tout le monde, on entend des voix, non, de temps en temps. Alors, on peut en parler. C'est intéressant, c'est humain, je dirais presque, c'est normal.
Alors là, on va entendre un témoignage de...
Des entendeurs de voix, ouais.
Ce jour-là, la réunion du club des entendeurs de voix réunit une quinzaine de patients qui échangent leurs expériences. Pas de médecin dans la salle, les malades parlent en toute liberté des voix qu'ils entendent. Cette fois-ci, le groupe accueille une nouvelle venue, Eva. J'entends des voix et j'ai des hallucinations, raconte la jeune femme de 25 ans. Depuis combien de temps, demandent les autres. Ces personnes que tu vois, elles te disent leur nom? István Galai participe au club des entendeurs de voix depuis sa création il y a 6 ans.
Avant, j'entendais beaucoup de voix qui me critiquaient sans arrêt. Pourquoi tu fais ci et pas ça? J'étais tellement sous pression que je n'arrivais pas à prendre de décision.
Aujourd'hui, István est guéri. Il n'entend pratiquement plus de voix. Il est devenu l'animateur du groupe et guide les autres patients.
On essaie d'établir un lien entre ces voix et les traumatismes qu'on a eus dans notre vie. L'autre pilier de la méthode, c'est qu'on dialogue avec les voix. On apprend à leur tenir tête sans les brusquer. On essaie de les apprivoiser. Par exemple, on leur demande gentiment de revenir plus tard.
Les entendeurs de voix continuent quand même à voir un médecin et à prendre des médicaments. Mais selon la psychiatre Judith Harangozo, si l'état des patients s'améliore, c'est parce qu'ils participent à ce club.
Le fait que les patients se prennent en charge et s'entraident est très important. C'est un grand pas vers la guérison. Quand ils sont entre eux, ils se sentent plus libres. J'ai des malades que je vois depuis 10 ans et qui ne m'avaient jamais raconté certaines choses. Au sein du groupe, ils parlent. Leur âme s'ouvre aux autres.
Vraiment, ils sont contents de venir ici, d'être ensemble, parce que ça donne aussi un sens très fort de communauté. Communauté avec des gens qui ont à peu près les mêmes problèmes. Je ne suis pas seul. Il y a des gens autour de moi qui se battent pour les mêmes choses que moi. Alors ça donne vraiment une force, une énergie incroyable.
Le centre organise régulièrement des événements. Expositions de peinture, pique-niques, conférences. Les patients ne sont jamais mis à l'écart. Ils participent à la vie de cette association, pas comme les autres.
Trafic d'influence, fraude, usurpation d'identité. Diogo Gaspar va avoir bien du mal à justifier les nombreux actes opaques réalisés au cours des 15 années passées au musée de la présidence de la République à Lisbonne, au Portugal. Sa fonction de directeur lui est un peu montée à la tête, Marilyn Darcy.
En 2001, Diogo Gaspar, âgé de 30 ans, vient de finir ses études d'histoire de l'art. Dynamique, enthousiaste, compétent, il est alors nommé directeur du musée de la présidence, un musée indépendant des musées nationaux. L'homme se retrouve à la tête de fabuleuses collections d'art. Celui qui n'est encore qu'un simple directeur de musée va peu à peu écarter les gêneurs, autres conseillers artistiques et spécialistes en art. Il élargit ses domaines d'intervention et s'arroge des prérogatives comme celle d'intervenir dans les cérémonies protocolaires ou comme commissaire d'exposition à partir des œuvres d'art présidentielles. Premier symptôme de sa mythomanie, il envoie en son nom des invitations à des événements sur le papier en tête de la présidence de la République illégale, mais personne n'y voit rien à redire. Au point d'ailleurs que deux présidents, le socialiste Jorge Sampaio et le centriste Cavaco Silva, vont le faire chevalier des arts et des lettres pour le récompenser de son zèle à faire briller les ors de la République. Ce n'est qu'à partir de 2015 qu'on découvre l'autre facette de Diogo Gaspar. En effet, suite à une dénonciation, la justice lance une enquête et place le directeur du musée sur écoute. Un an après, des perquisitions à son domicile et à celui de ses parents vont révéler l'existence du trésor détourné. Gaspar a procédé au déclassement d'objets d'art du musée pour les racheter à bas prix aux enchères et tenter même de revendre certains à la présidence qui n'y a vu que du feu. Diogo Gaspar, décrit comme un fou de pouvoir, nie tout en bloc. Ce personnage de roman devra peut-être à court terme se contenter de contempler les graffitis des murs d'une prison.
Ah,
Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Comment intéresser les jeunes à l'Europe? La question obsède les élus européens, c'est moins qu'on puisse dire, tant le divorce entre les institutions et la jeunesse semble être consommé. Il y a 4 ans, le Parlement mettait en place les EI, les European Youth Events en anglais, les rencontres européennes de la jeunesse. 2 journées de rencontres à Strasbourg entre les responsables européens et les jeunes, et le bilan de l'édition du week-end dernier est à l'image des 2 premières en demi-teinte, Eve.
Quelques milliers de jeunes ont quand même fait le déplacement pour fêter, n'est-ce pas, l'Europe, mais aussi se faire entendre. L'idée de ces journées, offrir une tribune à la jeunesse, ou plutôt à quelques-uns de ses représentants les plus motivés. Les participants étaient donc invités pendant 2 jours à débattre autour de 5 grands thèmes. La révolution numérique, le partage des richesses, la sécurité, la protection de la planète, ou encore une Europe plus forte. Était aussi au programme bon nombre de concerts et des spectacles en tout genre, comme ce battle de rap où les paroles s'inspiraient des programmes politiques des différents partis du Parlement européen. C'est très sérieux.
It seems to me this rapper is obsessed with his greenery. What the fuck are you? A human kind of rapper? Or are you Simba in the middle like Hakuna Matata?
Alors ça vous inspire, Laurent?
Bah écoutez, ils sont plutôt talentueux ces jeunes rappeurs, mais sur le fond, est-ce que ça fait vraiment avancer les choses?
En principe, les propositions les plus intéressantes faites par les jeunes sur ces sujets pendant ce week-end doivent être présentées cet automne sous forme de rapport à nos élus, libre à eux ensuite de s'en inspirer et de les intégrer au projet de directive ou de règlements européens. Par exemple, lors de la première édition, c'était en 2014, le rapport préconisait un système unique de vote pour toute l'Europe, un revenu de base européen, le fameux revenu universel, ou encore un véritable plan Marshall pour la jeunesse européenne, confrontée aux défis sociaux que l'on connaît, à hauteur de 2% du PIB de l'Union européenne.
Oui, je vois surtout que ces propositions n'ont pas vraiment laissé de traces.
Et bien voilà, justement, d'où le manque d'appétit de ces jeunes pour ce grand Raoult, où l'Union européenne affiche des ambitions qui ne collent pas tout à fait à ses moyens, ou en tout cas à sa volonté d'agir en la matière. C'est en tout cas la conclusion de Simon, un jeune Suédois venu à Strasbourg ce week-end, défendre ses idées sur la sécurité et l'insertion des jeunes, et interrogé par nos collègues d'Arte Journal.
C'est bien d'avoir l'occasion de rencontrer des gens influents et de leur transmettre nos messages. En même temps, les thèmes abordés ici sont vraiment très complexes et nous n'avons pu que les effleurer.
En fait, Eve, s'il y a une question qui n'est pas complexe, c'est bien celle qui inquiète les responsables européens eux-mêmes.
Cet enjeu, c'est l'échéance électorale de 2019, les élections européennes, car dans un an, nous serons tous appelés à élire nos représentants dans l'hémicycle européen. Or, dégagisme et euroscepticisme n'en finissent pas de faire des petits un peu partout au niveau européen, notamment au sein de la jeunesse. Pour résumer, on pourrait dire que les jeunes européens naviguent aujourd'hui entre euroscepticisme et indifférence. Seulement 27% d'entre eux se sont déplacés aux urnes en 2014.
Alors, une indifférence qui dépasse largement la jeunesse, puisque la majorité des citoyens européens n'est pas franchement euro-enthousiaste, Eve.
Non, et pour leur tendre la main, une grande consultation des Européens a été lancée le mois dernier en France et dans 26 autres pays, avec un but, mieux cerner leurs attentes à un an des législatives. Des centaines de débats auront donc lieu dans plusieurs villes sélectionnées et chacun peut d'ores et déjà répondre à un questionnaire dans sa langue sur le site de la Commission européenne et se positionner sur l'écologie, la sécurité alimentaire, la défense, l'Europe dans le monde, l'innovation, l'emploi, etc. Pour l'instant, il semblerait que ces consultations n'aient que peu de succès. Environ 30 000 participations. On est loin, très loin, des 500 millions d'habitants de l'Union.
Merci Eve Minot. À très bientôt sur Accent d'Europe.
À la semaine prochaine.
Et c'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 TU et sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio.